dans le nom de Jésus. C'est pour nous encore une joie immense d'être en vie. Alléluia. D'être compté parmi les vivants. Bien aimé, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il y a des ceux-là qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Alléluia. Il y a même des ceux-là qui sont réveillés ce matin à 5 heures, mais n'ont pas pu achever la journée. Il y a certains qui sont partis dans des hôpitaux. D'autres encore sont couchés à la maison. Et il y a ceux-là qui se trouvent aussi à la morgue. Pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est par pure grâce que nous sommes là. Alléluia. C'est par pure grâce. Et à chaque fois, nous devrons reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Et nous devrons reconnaître ne fût-ce que le souffle que nous recevons gracieusement de Dieu, sans facture. C'est une grâce. Alléluia. Et aussi, nous vous encourageons aussi à être zélés pour le Seigneur, à s'engager pour suivre le Seigneur. Et merci pour la détermination de chacun, la persévérance de chacun à venir à cette formation que nous faisons chaque mardi soir. Et comme nous le savons, j'aime toujours rappeler les choses, notre église méthodiste de Sinaï, nous avons une vision. Une vision à deux volets. Premièrement, c'est de faire de chaque membre de cette communauté un fidèle affermi, un disciple accompli. Comme Luc nous le dit dans Luc chapitre 6, le verset 40. Et aussi, faire de cette communauté une église missionnaire. Missionnaire, c'est une église qui a pour respiration l'évangélisation. Mais aussi, nous implantons des églises pour les âmes que nous gagnons. Amen. Une église missionnaire, c'est une église qui se ramifie. C'est une église qui avance en s'implantant en terrain. Alléluia. Et nous rappelons cela. Pour ce faire, nous avons besoin d'une église forte, de chrétiens affermis, de disciples accomplis. Et nous avons besoin des ouvriers de la moisson. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 9, les versets 36 à 38, Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et ces ouvriers-là, nous devrons les détecter dans l'église, nous devrons les former et nous devrons les envoyer. Alléluia. Nous devrons les envoyer. Alors, c'est dans ce sens que nous avons chaque mardi ici le cours de formation chrétienne. Et aussi chaque dimanche à 8 heures. Nous voulons bénir Dieu pour ceux qui prennent ces enseignements à cœur. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour nos directeurs académiques, Papa Don et Maman Don, qui sont toujours là pour mener à bien cette œuvre. Nous voulons simplement dire que nous sommes très fiers de vous. Alléluia. Merci aussi à Papa Nzulu, qui, malgré ses multiples activités et préoccupations, mais il fait tout pour informer le peuple de Dieu. Et chaque fois, nous avons le message, même dans sur notre plateforme, n'est-ce pas, de WhatsApp. Et pour ceux qui ont de WhatsApp, et si vous n'êtes pas connecté, voyez Papa Nzulu, donnez votre numéro pour que vous ayez les informations. Nous avons le WhatsApp la plateforme du conseil, pour ceux qui sont dans le conseil, mais nous avons la plateforme de l'église, le temple. Merci beaucoup. Le temple. Alors, si vous n'êtes pas dans le temple et que vous avez un WhatsApp, n'hésitez pas. À la fin, voyez Papa Nzulu pour lui donner votre numéro il va vous ajouter dans le temple, comme ça vous aurez les informations, n'est-ce pas? Voilà, nous faisons aussi l'effort parce que ce n'est pas tout le monde qui a WhatsApp, et nous ferons l'effort aussi de vous envoyer ça par SMS. Mais n'hésitez pas de nous donner vos contacts. Amen. Alors, nous avons déjà commencé notre enseignement. Qui peut nous rappeler de quoi nous sommes en train de parler maintenant? Quel est le thème que nous sommes en train de traiter? Le grand thème d'abord, avant de parler des sous-thèmes. On commence par la révision. Qui veut se lancer rapidement? Je veux une classe vivante. Voilà. Même s'il fait frais, mais on peut être chaud avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, qui se lance? Ou bien je choisis? Même si vous ne me regardez pas, je peux directement choisir. Ok? Parce que souvent, s'il s'agit de choisir, les gens ne regardent plus l'orateur. De peur que le doigt pointe là-bas. Alors, qui peut nous lancer? Qui peut nous parler de quoi nous sommes? Le grand thème que nous sommes en train de traiter, c'est quoi? C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans le sous-thème de l'enlèvement. Merci. Mais nous avons déjà vu la fois passée qu'on a fini l'enlèvement et maintenant nous sommes en train de passer. Suivez toujours, Papa Nzolo nous rappelle. Merci beaucoup, félicitations Papa Nzolo, parce que déjà si vous lisez, il nous donne déjà le thème. Déjà, il nous signale où nous sommes. Et il fait ça très bien parce qu'il nous dit déjà que celui qui veut avoir la réponse sur qu'est-ce qui va se passer au ciel et qu'est-ce qui va se passer sur terre après l'enlèvement, alors passer le soir au temple Sinaï pour pouvoir trouver la réponse. Merci, Papa Nzolo, pour cela, que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes là pour parler de après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Mais nous allons faire la révision pour mettre tout le monde à niveau. Nous sommes en train de parler de la deuxième phase du retour de Christ avec le sien. Voilà. Alors, nous avons dit la fois passée, pour le retour de Christ avec le sien, que cette période s'appelle la phase de la révélation ou bien la phase de la gloire. La phase de la révélation. Quand on parle de la révélation, ça signifie que quelque chose qui était caché, n'est-ce pas? Mais qui est mis à nu, à découvert. C'était caché, mais c'est découvert. C'est-à-dire qu'ici, nous avons deux phases du retour de Jésus. Je répète et j'insiste. Parce que souvent, les gens prennent la deuxième phase et ils oublient la première. La première phase, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, tout le monde ne le verra pas. Ne verra pas Jésus-Christ. Parce que selon la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous allons les joindre. Et ensemble, en un clin d'œil, nous allons tous monter à la rencontre du Seigneur. Où? Dans les airs. Oui, dans les airs. Là. Ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Et c'est la trompette, ce n'est pas aussi tout le monde qui va entendre cette trompette. C'est seulement ceux qui sont prêts à partir, ce sont ceux-là qui vont entendre cette trompette. Cette trompette, c'est pourquoi la Bible dit, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Parce que tu dois être prêt quand clairon là va sonner. En haut là-bas, tu sais que c'est le départ. On est parti. Voilà. Et après quoi? Après une période de 7 ans, nous avons dit que Jésus reviendra avec les siens, avec ceux qui ont été enlevés. Cette fois-ci, d'une manière visible. Tout œil, c'est ce que Zacharie nous dit, tout œil le verra. Et quand Jésus va descendre, et même ces cicatrices où on a pointé, on a mis les pointes et on l'a percé, les gens verront ça. De la même manière, parce qu'il y a des gens peut-être que vous doutez, mais vous reconnaissez que ça s'est déjà manifesté. Quand Jésus est ressuscité, il est entré dans la salle, et n'est-ce pas, où étaient les disciples? La maison fermée. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? La maison était fermée, et Jésus est entré dedans, et puis il a parlé avec les disciples. Mais il y a un homme qui n'était pas là, en la personne de Thomas. N'est-ce pas? Lui n'a pas cru.
Mais une autre fois encore, Jésus a apparu cette fois-ci. Thomas était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est présenté pour dire, viens ici, mets ton doigt. Vous voyez, n'est-ce pas? Mets ton doigt là, sur ma main où on m'a percé. Et c'est de là que Thomas a compris et il a fait une belle confession en disant, le Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Que c'est là que Thomas a compris que vraiment Jésus-Christ là, hein, il était fils de Dieu, mais il était aussi Dieu. Parce qu'il le voit comme ça, la maison fermée, et puis lui il entre, par où il est entré. Mais il a vu aussi la main percée, les mains percées, et il a reconnu que c'est vraiment le ressuscité. Alléluia. Et de la même manière que nous avons vu Jésus, que eux ils ont vu Jésus avec les mains percées, quand il viendra aussi à la deuxième phase, tout le monde le verra, mais avec les mains aussi percées, et ils vont découvrir que, et c'est là que les Juifs qui ont renié Jésus, parce que la Bible dit dans Jean 1, 11, qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que les yeux des Juifs vont s'ouvrir. Et nous avons dit que aujourd'hui nous parlons, c'est presque un tiers des Juifs qui sont seulement messianiques. C'est-à-dire qu'ils croient que Jésus est venu et il est parti. Un tiers seulement. Les restes là, ils sont dans l'aveuglement. Et c'est Dieu qui a permis cela. Si nous lisons cela dans Romains, Dieu, Paul nous explique ça. C'est Dieu qui les a gardés dans cet aveuglement pour que nous puissions entrer. C'est ce qu'on appelle Olivier sauvage et Olivier, hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Pour être greffé dans l'olivier original. Donc, pour que les nations, les païens, les gentils puissent entrer. Alors, quand Jésus va revenir avec les siens, avec tous ceux qui seront enlevés, c'est là les Juifs vont voir que, donc c'est vrai ce qu'on dit, que Jésus vraiment est venu. Le Messie qu'on attendait, il est venu. Et la Bible dit que c'est là qu'ils vont pleurer amèrement. Ils vont pleurer, ils vont se repentir, mais la Bible dit que tous, ils seront sauvés. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Voilà. Dieu a fait ça dans sa préscience pour que nous soyons sauvés. Alors, nous avons vu que deuxièmement, il reviendra avec les siens qui ont été enlevés après une période de 7 ans. Et les anges, pour instaurer son règne sur la terre et pour punir ceux qui n'ont pas cru en lui. Et nous avons vu que entre l'enlèvement de l'Église et sa venue visible de gloire, se situe une période qu'on appelle une période de grande tribulation. C'est une période qui va durer 7 ans. La grande tribulation. Ça va durer 7 ans. Mais sur les 7 ans, ça sera le règne de l'Antéchrist. Mais quand il va commencer au début, il ne va pas directement commencer par la tribulation pour châtier les gens, mais il va faire au début un contrat, une alliance, un pacte de paix. Alors pour dire que bon, entendons-nous maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut maintenant qu'on ait un président qui va diriger maintenant le monde entier. C'est voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de créer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. En réalité, si vous entendez simplement nouvel ordre mondial, ça montre que c'est le gouvernement de l'Antéchrist qui est en train de se préparer comme ça. Et ça sera dirigé par un homme. C'est le diable lui-même, Satan, qui va s'incarner à un homme qui va diriger le monde entier. Et va signer un pacte au début pour dire que bon, il y a maintenant là la paix. Donc on va s'entendre, il n'y aura plus de guerre parce que maintenant, on a un seul gouvernement, on a maintenant un seul chef, on a maintenant une seule monnaie, on a maintenant une seule religion. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que tout aujourd'hui, ça est dans union, 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 union. Quand ça va se rassembler tout en bloc, on forme un seul gouvernement, une seule monnaie, un seul marché et puis une seule religion. Voilà ce qui va se passer. Et pendant ce temps, ils vont passer 3 ans et demi de paix. Mais au milieu, comme Satan reste toujours Satan, il ne se convertit pas. C'est un piège pour prendre tout cela là pour rassembler aussi son armée. Parce que lui, il est conscient qu'on aura une guerre entre moi et Jésus. Donc lui aussi ne veut pas rester seul. Il recense aussi son camp. Pour créer aussi son camp. De la même manière que nous aussi, nous sommes en train de gagner les âmes pour que nous soyons dans le camp de Jésus. Lui aussi, avec ses agents, sont en train de recruter aussi les membres de son camp qui vont se positionner en combat, en guerre, et ce qu'on appelle, nous verrons, la guerre d'Armageddon. Le combat d'Armageddon, nous verrons ça tout de suite. Et voilà, j'explique comment les choses vont se passer. Et à 3 ans et demi, il va déclencher maintenant, il va maintenant se présenter que, bon, vous tous là, qui êtes venus ici là maintenant, là, vous allez voir pourquoi vous êtes restés ici. Pourquoi vous êtes restés? Vous n'êtes pas partis. Donc, maintenant, là, c'est là il y aura des atrocités. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant 7 ans et demi. Et pendant 7 ans, souvenez-vous que le Saint-Esprit n'est plus là. 3 ans et demi. Le Saint-Esprit n'est plus là pour te sauver. Parce que la grâce n'est plus. Le Saint-Esprit a remis l'Église à Jésus-Christ. Vous savez que le rôle du Saint-Esprit, c'est de garder l'Église. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va remettre, n'est-ce pas, l'Église à qui? À Jésus-Christ, l'épouse, vous voyez, pour les noces de l'agneau. Et là, nous allons voir ça, nous avons déjà commencé. Donc, il va remettre l'Église. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire que si tu veux être sauvé pendant la grande tribulation, tu seras sauvé par ton propre sang. Ce n'est plus le sang de Jésus. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que comme je suis resté ici, il y a vraiment, chacun maintenant va se sauver. Et puis, ce qui est, comme je dis là, ce qui est grave, c'est que tu n'as pas Saint-Esprit hein, pour te soutenir. Donc maintenant, c'est ta propre force. Et on va voir ça un peu l'illustration dans le film que nous allons voir. Peut-être Dieu permet, mardi prochain, nous allons voir ça. Ça sera seulement spécial film. Ça venait tôt, parce qu'on va commencer ça à 19h05. On va commencer ça parce que c'est 2 heures du temps. Donc à 19h05, mardi prochain, par la grâce de Dieu, on commence le film là. Vous allez voir une illustration vraiment, en tout cas, vous allez comprendre comment les choses vont se passer. Parce que les chrétiens, il faut qu'on soit informés. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous, on ne veut pas être ignorants, mais on veut vraiment comprendre comment les choses vont se passer. Vous savez, bien aimé, j'ai dit ceci. Pour une église qui se prépare à l'enlèvement, quand on lance sur la plateforme un thème comme ça, qui dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer au ciel? Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement ?» Les gens doivent courir pour venir savoir qu'est-ce qui va se passer. Des chrétiens sérieux doivent courir parce que nous, on ne veut pas rester ici. Et on doit savoir comment les choses vont se passer. C'est pas ça. Mais vous allez voir que les chrétiens, ça ne leur dit rien. On s'en fout. Reste comme ça. On s'en fout. Mais nous, on fait notre part. Fais comme on voit le message. Ça est sur ton portable. Quand tu vas rester, tu vas lire ça. Oh, Jaco, c'était ici dans mon portable. Tu n'auras pas le temps de dire que non, on n'a pas parlé de ça à Sinaï. Tu n'auras pas le temps de dire que non, on n'a pas parlé de ça à Sinaï. Garde ça sur ton portable, sur ton WhatsApp. On a mis le thème et tu n'es pas venu. Merci beaucoup. Ça y est là, tu n'es pas venu. Alors, il y aura la grande tribulation. Ça sera un temps de désolation. Il y aura les pleurs et vraiment... Oh. C'est le stress. Parce que nous sommes là, c'est là que les gens vont comprendre que... Donc, ce qu'on nous disait dans l'enlèvement, là, c'est vrai. Vous savez, beaucoup de personnes, même les chrétiens, même ne croient même pas à l'enlèvement. Ils disent, là, depuis que ça a commencé, ça est toujours là. Toujours là, à quel enlèvement vous parlez? Restez là. C'est ces jours-là que ceux qui vont rester là vont comprendre que... Donc, ce qu'on nous disait là, c'est vrai. Voilà. Et ça sera un moment d'angoisse. Un moment de tribulation. Un moment de pleurs. Alors, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer au ciel et sur la terre? La fois passée, nous avons vu qu'au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 2 temps forts au ciel. Il y aura, premièrement, pendant ces 7 ans, il y aura le tribunal de Christ. Nous avons dit qu'il y aura le tribunal de Christ. Mais quand nous entendons tribunal, on a déjà dans l'esprit qu'il y aura un jugement et il y aura une condamnation, n'est-ce pas? Or, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a point, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais vous allez vous poser la question, maintenant, quelle est la place du tribunal de Christ? Alors, chacun va se présenter. Tu es enlevé, tu es parti là-bas, mais chacun va se présenter. Maintenant, c'est facile pour faire quoi? Et c'est là-bas que tu vas maintenant voir ta vie en film là-bas. Tu vas suivre ton film là-bas. Mais là-bas, tu ne seras plus condamné parce que tu es sauvé par grâce, au moyen de la foi en Jésus. Tu as cru à l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par les œuvres, mais tu es sauvé par la foi, n'est-ce pas? Tu es sauvé par grâce au moyen de la foi. Tu es arrivé là-bas, maintenant Jésus te dit, viens ici. On va voir maintenant, après avoir été sauvé là, tu as fait quoi? Voilà le but du tribunal de Christ. C'est-à-dire que quand tu étais sauvé là, hein? Maintenant là, tu as reçu Jésus. Tu as fait quoi? Pendant tout le temps que tu es resté, depuis qu'on t'a sauvé là, on t'a laissé sur la terre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients. Pourquoi ils sont sauvés? Ils ne se posent même pas la question, hein? Pourquoi ils sont sauvés? Et puis, quand Jésus t'a sauvé là, pourquoi il ne t'a pas pris le même jour pour partir? Moi, je dis aux gens, vous savez que la meilleure mort serait le jour où tu acceptes Jésus dans ta vie. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Seigneur personnel. Viens habiter dans ma vie, viens entrer dans mon cœur. Dès que tu finis cette prière, pardonne mes péchés, inscris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Amen. Pour ne pas rater, en même temps on te prend et puis tu es parti. C'est pas bon ça. Hein? Corona est fini, maladie est finie, la faim est finie, la pauvreté est finie, les guerres sont finies, tout ça là, tu es parti en même temps. C'est pas bon. Mais remarquez que Dieu t'a sauvé, mais il t'a laissé sur la terre encore pour vivre des années. Vous savez, moi je me pose la question souvent, est-ce que les chrétiens sont conscients qu'on nous a laissé sur la terre ici pour une mission? Prenons Luc. Parce que beaucoup de chrétiens, pardon, ils ne sont même pas conscients pourquoi ils sont sauvés. Hein? Ils ne demandent même pas cette question-là à Dieu. Mais pourquoi même tu m'as sauvé? Et puis de Dieu, tu m'as sauvé. Oh. Mais pourquoi tu ne m'as pas pris pour partir et puis tu m'as laissé encore sur la terre? Tu es en mission sur la terre. Lisons Luc 1. Vous allez voir. Luc 1, le verset 74 jusqu'à 79. Vous allez voir. C'est que Zacharie. Allons-y là-bas, maman, donc, si tu as ça. Luc, chapitre 1, le verset 74. Pourquoi? Il faut noter ça dans ton cahier. Pourquoi suis-je sauvé? Pourquoi Jésus m'a sauvé? Il ne faut pas venir chanter cela. Hey, Jésus m'a sauvé, et toi. Jésus m'a sauvé, et toi. Ce n'est pas pour chanter ça seulement. Toi-même, il faut comprendre pourquoi il t'a sauvé. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que si tu es sauvé, là, c'est fini. Et ils chantent. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Oh, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. C'est bon, mais ce n'est pas fini. Ce soir, je suis venu te dire que c'est bon, mais ce n'est pas fini. Parce qu'on t'a laissé, on t'a sauvé pour faire quelque chose. Allons-y, maman, donc. Luc 1, oui, Luc 1, le verset 74 jusqu'à 79.
Ça commence au milieu. D'accord. En marchant devant lui dans la sainte. C'est pas ça. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions, voilà, de nous permettre, après que nous serions délivrés. De la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Mm-hmm. de le servir sans crainte. Sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Afin de, oui, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres.
Vous voyez ici, hein? Tu as sauvé pourquoi? Selon ce passage-là, 79. Pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ça signifie quoi? Simplement. En français simple. Ça signifie quoi? Oui, Élisée. C'est pour évangéliser les païens. C'est pour les païens de Jésus. Regardez, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Et puis ils prient Dieu. Oh Seigneur, montre-moi mon ministère. Montre-moi. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Yeah. La Bible déjà dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Toi, c'est quel ministère encore tu cherches d'abord? Premier ministère de tout chrétien, c'est quoi? Premier ministère de tout chrétien, c'est? C'est pas fini? Ouais. Premier, c'est quelqu'un qui ne veut pas venir à l'église. Oh, vraiment, moi, je n'ai pas encore découvert mon don. Je n'ai pas encore découvert mon ministère. Voilà ton ministère. Est-ce que tu es sauvé? Oui. Tu es sauvé pourquoi? On dit là-bas, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbres. Mais nous revenons. Ici, au tribunal de Christ, il y aura remise de récompenses, remise de couronnes. Maman, oh non, moi je suis pressé pour être là pour voir ma couronne là, c'est comment ça sera. Vous savez, c'est à cause de ça Paul disait dans 2 Timothée 4 que nous aimons trop. Que nous mettons aussi dans nos faire part. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et la couronne. Les gens même n'ont même pas la bouche lourde. Et puis ils parlent.
Il peut aller et la couronne. Et qui est?
Toi, tu connais couronne là?
Tiens.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas joué, qui n'a pas fait l'athlétisme. Et puis tu es ici à Bidjan.
Oh, ce jour-là, la couronne des Jeux Olympiques me sera accordée.
Toi, tu as joué? On t'a sélectionné? Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu n'es même pas sélectionné dans les Jeux Olympiques.
Et puis toi, tu es ici à Bidjan. Non, ce jour-là, on me donnera la couronne, le trophée des Jeux Olympiques.
Aïe.
La médaille.
Merci beaucoup, Mamadou.
La médaille d'or. On me donnera ça.
Est-ce que toi-même là, est-ce que tu es sélectionné dans l'équipe là? Des équipes qui est partie jouer là. Toi, tu es sélectionné.
Oui, ne réclamez pas ce que vous pouvez. Ce qui n'est pas pour toi, là, il ne faut pas réclamer. Quand Paul disait ça là, il savait que le ministère qu'il a exercé sur la terre, le travail qu'il a fait sur la terre, il connaissait déjà quelle est sa récompense. Oui, il dit la couronne, quelle couronne là-bas? Il dit couronne de vie, hein? Ça m'attend au ciel. Et on va arriver là-bas, les récompenses, hein? Les chrétiens là-bas. Il y a au total 7 couronnes. 7 sortes de couronnes. Toutes les couronnes ne sont pas la même chose. Il y a ceux qui ont évangélisé. Il y a ceux qui ont enseigné. Il y a ceux qui ont fait comme ça. Chacun. Quand Paul réclamait ça, il y a ceux qui étaient des martyrs, qu'on a tués à cause de l'évangile. Et ils ont leur couronne à eux. Paul, quand il parle comme ça, là, c'est parce qu'il a évangélisé. Vous voyez, non? Il a évangélisé et il a fermé les chrétiens. Et il a mis le fondement. C'est pourquoi même il dit, personne ne peut poser encore un autre fondement pour l'église. Vous voyez, non? Il a fait ça. Et maintenant, à la fin de sa vie, Paul sait que j'ai fini ma mission. Vous savez, c'est quelqu'un qui a compris son objectif sur la terre qui peut dire que j'ai fini. On est d'accord, non? Que j'ai fini. Paul savait que son temps même de la mort est arrivé. Il dit, Dieu, j'ai fini la mission que tu m'as donnée. Comment Paul a su ça? C'est parce que dès le début, il a compris à quoi il était appelé. Vous vous souvenez de sa conversion dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand il est tombé sur le chemin de Damas, il est tombé pendant 3 jours. Il ne voyait pas. Il est tombé. Mais on lui dit que il va chez un certain Ananias qui va te dire, c'est pourquoi je t'ai appelé. Et il est parti chez Ananias. Ananias lui dit que toi, tu seras un instrument que Dieu a choisi pour être son porte-parole. Mais il a précisé quel est son auditoire et sa cible. Il dit parmi le roi. Vous voyez, le roi. Le roi. Le chef. Oui, donc le ministère de Paul n'était pas seulement à cause des gens qui sont dans de basse classe. Et c'est, il dit que l'histoire il sera un instrument devant le roi. C'est à cause de ça, quand on a arrêté Paul, on veut le juger, on dit non, toi là, il faut aller chez César. On va là-bas, dit non, ce n'est pas chez César, toi, il faut aller chez justice. On va chez justice, non, que toi là, il faut aller chez Agrippa. Ce n'est pas l'accomplissement de sa vision. On l'amène devant le roi Agrippa. Et il dit que Paul, toi, on t'acquise pour ça, ça dit que bon, roi, excuse-moi, est-ce qu'on peut garder silence, moi je vais parler. Et il a pris le témoignage, son témoignage, allez lire ça dans Acte 22 et puis Acte 26. Il a pris son témoignage devant le roi. Et il a commencé à décrire comment il a rencontré Jésus sur la route de Damas, comment il est tombé, et puis quand il a expliqué, jusqu'à même le roi lui-même dit que, roi Agrippa, il dit que Paul, faut arrêter ton témoignage là. Parce que si tu continues comme ça, tu risques de me persuader moi-même de devenir chrétien comme toi. Paul dit, mais c'est le but de mon témoignage. Le but de mon témoignage, c'est que toi, tu deviennes chrétien, à l'exception de ces liens. Parce qu'il était en prison, on l'a attaché. À l'exception de ces liens-là. Pourquoi on l'a noté? Mais moi, je veux que tu deviennes chrétien. Voilà le but de son témoignage. Dans Acte 22 et Acte 26. Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui comprenait déjà pourquoi on l'a amené, on l'a arrêté. Et tout. Si c'est nous là, regardez quelqu'un qu'on frappe à cause de Jésus. Et puis on les interdit que vous ne devrez plus prêcher encore au nom de Jésus-Christ. Si c'est nous là, on va faire quoi? On va dans la maison doucement. Bon, comme on me frappe aussi, tu ne veux pas où? Je m'en vais m'asseoir. Regardez, dans Acte 16, on les prend avec Silas, on les mate, on les botte bien beau. Et puis la Bible dit qu'au milieu de la nuit, les gens qui ont mal dans le corps, si c'est nous là, on va commencer à murmurer. Jésus, vraiment, tu ne vois pas, on nous frappe. on nous fait souffrir comme ça, on nous frappe comme ça. Mais Paul et Silas savaient que nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans la vision, nous sommes dans le ministère et nous sommes dans notre droite ligne de ce que Dieu nous a demandé de faire. Allez, mon ami, au lieu de pleurer, on va chanter. Ouais. Ils ont chanté jusqu'à les gens dans la prison les entendaient. Comment les gens qui sont un en prison, ils sont contents. Les deux, on les a frappés, ils sont blessés, mais ils sont contents. C'est que vraiment il y a quelque chose. Oui, non. Jusqu'à les geôliers même sont en fait demander que comment moi je vais faire maintenant là pour être sauvé. Ouais. Et comment moi je vais faire pour être sauvé, parce que ce que je vois là, vraiment, c'est formidable. Moi aussi, regardez, gardien de la prison, il dit que lui veut être sauvé. Parce que la vie là, c'est pas ordinaire. Et il veut être sauvé. C'est pourquoi Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ toi-même, mais tu seras sauvé toi et ta famille. Nous revenons simplement, bien aimé, pour dire, au tribunal de Christ, voilà un moment où le chrétien sur la terre qui est sauvé doit s'engager au service de Dieu. Vous savez, bien aimé, un chrétien qui comprend comme ça, qui a des récompenses qui m'attendent là-bas, là, hein, il va travailler avec acharnement. La Bible dit, il y a du zèle et non de la paresse. Pourquoi? Parce que nous regardons à ce qui est devant. Quand Paul même marchait dans sa vie, allez lire ça dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 12 jusqu'à 14, il dit, j'ai fait une chose. Voilà comment Paul a marché. Oubliant ce qui est en arrière, vous voyez, les anciennes victoires, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, mais je vise ce qui est devant moi. Ouais, je vise ce qui est devant. Parce qu'il savait que je dois travailler, je dois servir par rapport à ce que Dieu m'a dit de faire sur la terre. Bien aimé, ce soir, je vais te poser la question. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui te pose la question. Pourquoi il t'a sauvé? Ça, c'est un. Et deux, pourquoi il t'a laissé sur la terre? Pour manger à tchéqué, foutou, sauce graine. C'est pour ça. Hein? Pourquoi il ne t'a pas pris pour partir? Il te laisse l'occasion de le servir pour que tu sois récompensé au ciel. Ouais. Et la fois passée, j'ai dit que les récompenses, ce n'est pas avant le salut. Les œuvres ne nous sauvent pas. Mais c'est après le salut que nous devrons servir le Seigneur. Et lorsque nous servons le Seigneur comme ça, la Bible dit que le dernier jour, là, quand nous serons au tribunal de Christ, Dieu nous donnera nos récompense. C'est que chacun. C'est pourquoi la Bible dit que même la mort d'un chrétien, c'est un gain. Vous avez vu ça, non? Il dit, même la mort d'un chrétien, c'est un gain. Parce que ce qu'il va aller recevoir là-bas, là, ça dépasse la souffrance qu'il avait ici sur la terre. On est d'accord, non? Et puis, vous voyez que les chrétiens, il dit que même il est mort, mais la Bible dit que ses œuvres vont l'accompagner. Ce que tu as fait sur la terre là, voilà où les œuvres l'accompagnent. C'est pour aller jusqu'à tribunal de Christ pour que tu sois récompensé. Voilà bien aimé l'interpellation des chrétiens aujourd'hui. Oh, tu peux pas dire, alors aujourd'hui là, il y a prière. Et aujourd'hui, il y a comme fois. Toi, dis, vraiment, et aussi, fatigue les gens. Il faut rester là. Reste. Quand on va partager, premier de la classe. Et vous savez, quand on était à l'école primaire, on nous faisait un jeu pour que nous puissions travailler. En tout cas, ça nous aidait, jour de... On arrive en juillet comme ça. Hein? Et puis on veut faire proclamation. Toute l'école. Et puis on invite les parents. Les parents viennent. Les parents sont assis là-bas. Et puis tous les étudiants. Là où vous faites salut au drapeau là. Hein? Tout le monde est là-bas. Et puis on appelle classe par classe. Vous passez au milieu. Et puis tout le monde, vous êtes encerclé. Hein? Et puis tout le monde vous regarde. Et puis on commence proclamation. Premier de la classe. Avec tant de pourcentage. Passez. Tout le monde. Bah! Et puis maintenant, là, on appelle un à un. Et puis, vous êtes en rang. Hein? Vous avez fait deux rangs. Ou bien quatre rangs. Mais on appelle premier de la classe. Tu passes. Tu prends. Deuxième. Tu prends. Troisième. Tu... Quatrième. C'est... Quand on arrive vers quinzième là-bas, là, tu commences à regarder. Oh. Hein? On reste combien ici? Si tu ne fais pas attention, toi-même tu commences déjà à faire comme ça pour aller joindre ceux qui sont derrière là-bas. Parce que tu étais trop devant. Pour aller jouer. Mais ça nous encourageait. Ça nous motivait parce que non, quand même. C'est-à-dire que tu es à l'école, mais tu vises déjà que non, à la proclamation là, non, non, non. Hey!
Moi, je ne veux pas rester derrière là-bas.
Si tu ne me vois pas entre les trois premiers, c'est que ce n'est pas moi. Ouais. Ça nous motivait. Ouais. Pourquoi? Parce que à la proclamation, quand on voit, je ne veux pas rester derrière. Un chrétien qui comprend les récompenses qu'il attend là-bas. Là. Même exemple que je viens de prendre là. Tu vas travailler avec acharnement. Tu vas travailler pour le Seigneur avec zèle. Parce que tu sais ce qui t'attend le jour là du tribunal de Christ. On va appeler. Maman Élisée, présente. Viens ici. Voilà pour toi ta couronne. Vous voyez, parfois quand on distribue les cadeaux ici, qu'il y a des gens qui ratent cadeaux, hein? On ne trouve pas ton nom et on ne trouve. À remarquer, c'est au ciel comme ça là. On a appelé et puis ton nom n'est pas sur la liste. Hein? Tu viens comme ça là. Non, toi on ne voit pas ta liste. Faut rester en attente là-bas. Ils se sont trompés. Hein? Yeah! Oh, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Bien aimé, un chrétien qui comprend qu'il y a des récompenses, il va travailler aujourd'hui avec acharnement. Il ne va pas attendre même que quelqu'un l'encourage. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont on est des chrétiens pousseurs. On ne va pousser. Allons, et allons. Et pourquoi tu n'es pas venu? Vous pensez que quand tu seras au ciel là-bas, tu vas penser à passer un goma? Hein? Quand tu auras, on va te donner ta couronne là-bas. Tu vas dire que bon, passez un goma, viens prendre un pays ici là. Tu vas dire ça. Rien, c'est toi-même qui vas prendre. Et puis tu t'en vas t'asseoir là-bas. C'est pas ça? Et puis tu es fier, ah, vraiment, j'ai réussi, en tout cas. C'est toi-même qui seras fier. Mais aujourd'hui, on te dit, il faut venir dans la formation. Ah, vraiment, vous pratiquez les gens. On n'a pas le temps. On doit regarder le match de France aujourd'hui. On va regarder le match de France. On va regarder le football. Mm-hmm. Ah, les jours là-bas arrivent.
Alléluia. Tribunal de Christ, et nous aurons là-bas les œuvres de chacun. N'est-ce pas? Les œuvres de chacun. Chacun va recevoir sa récompense. Tout ce que tu as fait sur la terre. Maman, mémé, tout ce que tu as fait là. Vous savez, quand la Bible dit, dans Hébreux 6, 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. Allez lire ça. Hébreux 6, le verset 10. Dieu n'est pas injuste. Tous les petits faits et gestes, tous les petits sacrifices que nous faisons, tous les dons que nous faisons, tous les services que nous rendons, Hébreux 6, 10. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous rendons au sein. Alléluia. Il va récompenser ça. C'est noté. C'est noté. Tout ce que nous faisons, c'est noté. Tu as fait du bien à quelqu'un. Je note là-bas dans tes carnets. Oui. Note là-bas. C'est à cause de ça, nos parents de l'autre côté font des sacrifices, donnent des sacrifices aux gens pour que ça puisse augmenter, balance là-bas le poids. Que ça puisse augmenter le poids. Mais le poids ne va pas augmenter sans sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça qu'il faut reconnaître.
Amen.
Les récompenses seront distribuées selon les cas. Et ils obtiendront une récompense ou en seront privés. Yeah. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront derniers de la classe. Là-bas. Tu es au ciel, hein? Mais tu regardes tout le monde. Tout le monde a eu. Toi, tu es là en train de tourner. Au ciel, hein? Mais il y a des gens qui vont dire que, ah, pasteur, mais malgré ça, je suis déjà au ciel. Yeah. Ça va te faire mal, hein? On est d'accord? Ça va, Philippe, ça va te faire mal, non? Tu es au ciel, bien sûr, mais tu arrives là-bas. Tu regardes, lui, là, on a donné, voilà, cadeau, voilà, couronne, voilà quoi. Toi, tu es là. Hein? Et pour moi? Lisez 1 Corinthiens 3, les versets 14 à 15, rapidement. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Oui, Roxane. Écoutez, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, sur le fondement de quoi? Notez bien la fois parce que j'ai expliqué ça. Sur le fondement de l'amour. De l'amour. Sur tout ce qu'on fait. Ce n'est pas par amour, c'est zéro. C'est ce que 1 Corinthiens 13 nous dit. Tout ce que nous faisons doit être basé sur l'amour. Le fondement, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Et à toi. Allons-y, Roxane. Oui? Vous entendez là-bas, hein? Il perdra sa récompense. Oui? Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers de feu.
C'est-à-dire que quand tu es dans la maison brûle, tu n'as pas le temps d'aller soulever valise, vrai ou faux. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? C'est de te sauver. Tu vas sauter par la fenêtre, d'abord toi-même pour sauver ta vie. C'est pas ça? Tu es dehors, mais tout ce que tu as là, ça brûle. Sans rien, mais tu, quand même tu es sauvé, tu es dehors là-bas parce que tu n'es pas brûlé, mais tout ce que tu as dans la maison là, c'est parti en fumée. Ça fait mal, hein? Toutes tes économies, tout ce que tu as travaillé, tu as mis dans petite maison, même dans studio, et tout est brûlé. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tout est brûlé, et puis toi, tu es dehors. C'est-à-dire qu'il faut reprendre la vie à zéro. Mais or, quand on sera au ciel là-bas, il n'y a plus la manière de revenir encore pour venir reprendre. Voilà ce qui est grave. Voilà pourquoi il faut travailler maintenant. Il faut travailler maintenant. Ça, c'est un enseignement qui exhorte les chrétiens au service de Dieu. Et avec zèle. Quand les salmistes disent, les zèles de ta maison me dévorent. Hein? Les zèles de ta maison me dévorent. Oui. Mais les chrétiens aujourd'hui ne sont pas zélés. À l'église même. Même les jeunes. Ils sont comme des, permettez-moi, comme des jeunes fatigués comme ça. Pour s'engager même à l'œuvre de Dieu. Yeah. C'est comme si eux-mêmes, ils ont plus de problèmes que leurs parents même. Ouais. C'est ici l'interprétation de servir le Seigneur avec zèle. Romains 12, 11 dit quoi? Hein? Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Alléluia. Servez le Seigneur avec joie, avec zèle, avec ferveur, avec engouement, avec détermination. Alléluia. Cela va payer un jour. Mais je vais noter ici. Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament ici sur la terre. On est d'accord? Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament sur la terre. Tu n'as pas besoin qu'on te donne diplôme de reconnaissance sur la terre. Qu'on te reconnaisse ou qu'on te reconnaisse pas aussi la terre ici, mais au ciel là-bas, c'est marqué. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hey, non, cette église-là, hey, moi, on ne m'a pas donné, et quoi, et diplôme de reconnaissance. Bon, si on te donne ça ici, tu vas aller avec où? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ouais. Ça sert à rien. Mais moi, le diplôme que j'attends là, c'est au ciel. Tout ce que j'ai fait là, par la grâce de Dieu, arrivé là-bas, brou, voilà ton diplôme de reconnaissance au ciel. Waouh! Comment tu seras content? Ta maison est déjà construite là-bas, villa. Yeah! Il y a aussi des maisons à papa là-bas. Hein. Donc, un papa modèle américain. Studio américain là. C'est aussi là-bas. Amen. Deuxième événement qui sera là-bas, c'est le noce de l'agneau. Le noce de l'agneau, c'est quoi? C'est une fête sans égale, n'est-ce pas? Dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est l'union de Christ avec son épouse qui est l'Église. Ouais, c'est l'union, la rencontre. Parce que là, le Saint-Esprit va remettre l'épouse. Parce que Jésus est comme notre mari. Vous voyez, n'est-ce pas? Et il va remettre l'épouse. Il va remettre sa fiancée à Jésus-Christ. Parce que c'est là-bas qu'il y aura notre fête. C'est ce qu'on appelle ici là. Nuit de quoi? De noces. Vous voyez, c'est ici qu'on a appris ça. C'est ici qu'on a appris ça. Ici. C'est ici qu'on a appris ça. Donc il y aura banquet au ciel. Dîner gala au ciel. Vous vous souvenez quand Jésus parlait de la Sainte-Seine dans Matthieu 26, il a dit que je ne boirai plus de ces vins-là. Seulement jusque le jour-là au royaume. Moi-même, je me demande, comment, qui va envoyer vins-là là-bas et qui va fabriquer ça? Bon, ça, arrivé là-bas, on va voir. Qui va nous servir? C'est quitter où? Ça, c'est dans la raffinerie du ciel là-bas. On ne sait pas comment ça va se passer dans la brasserie du ciel. Qui va fabriquer ça là-bas? Mais on va boire ça là-bas, les jours là. Mais personne ne sera saoulé là-bas. Ça là, c'est pas pour saouler les gens. Voilà.
c'est pas pour saouler les gens. Ouais. Et ça sera une fête sans égale. La rencontre de Jésus avec son épouse qui est l'église. Et c'est ce que Paul essayait d'expliquer dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26 à 27. Lisons ce passage. Lisons ce passage. Éphésiens 5, 26 à 27. C'est ce que Paul a essayé d'expliquer. Rapidement, rapidement. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Voilà l'église que Jésus-Christ va venir prendre, et il y aura un banquet, un dîner gala, ça là, participation gratuite. Oh, vraiment, c'est chic, hein? Or, ici, là, nous aussi, on dit la dîner gala, là. Et on dit couple, 50 000. 150 VIP, 150 000, c'est beaucoup. 150 000. Or, là-bas, là, c'est off. C'est gratuit. C'est boisson. Allez, viens manger. Ça, c'est le noce avec Jésus. Les noces de l'agneau que nous trouvons dans Apocalypse 19, et verset 1 jusqu'à 10. L'apôtre Jean, Apocalypse, nous parle de cette grande fête qui rassemblera les rachetés dans le ciel autour du Seigneur en présence des anges et de toutes les créatures célestes. Ouais, nous serons là-bas. C'est là-bas que nous allons voir les anges. Ah, comment les anges sont? C'est là-bas qu'on va les voir. Mais on n'a qu'à arriver d'abord là-bas. Ok? Voilà. Il ne faut pas passer ton temps à discuter ici. Ange, c'est comment? Ange, à quel sexe? Ce n'est pas la peine. Arriver là-bas, tu vas voir maintenant. Ange, faut venir ici. Je vais bien, bien te regarder. Si c'est comment tu es. Voilà. C'est là-bas. Mais il faut chercher d'abord à aller là-bas. Il y a des gens qui discutent en vain ici, sur la terre. Oh, les combien de gens ils peuvent se poser au bout d'une aiguille? Eh? Ah oui? Hein, on met aiguille comme ça, aiguille. Hein? Et puis on demande combien des anges peuvent se poser au-dessus de la pointe de l'aiguille là. Combien? Et puis on discute sur ça. C'est ça qui a fait que l'église là, au nord là, les gens sont venus balayer ça. Parce qu'elles sont en train de discuter sur les choses de futilité, de doctrine bizarre. Allez, regardez, le nord que vous voyez là, hein, c'était tout le nord de l'Afrique. C'était le christianisme. Et même une partie de l'Europe. Et vous voyez, c'était le christianisme. Mais aujourd'hui, c'est nos parents qui nous ont remplacés là-bas. Pourquoi? Parce que les chrétiens, au lieu de faire ce que Dieu leur a demandé de faire, ils sont là en train de discuter pour les futilités. Même jusqu'aujourd'hui. Ah, toi, tu ne parles pas en langue. Oh, chez nous, il faut venir chez nous. Dieu est là-bas, il est assis même sur son trône. Ah, chez nous, là-bas. Et viens chez nous. On vend l'huile fabriquée par le frère de Jésus eux-mêmes. Avec les aromates qui sont quittés. Vous voyez, les gens discutent pour les futilités. Au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ouais. C'est à cause de ça, dans Luc 18, le verset 8, Jésus s'est posé la question. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Ouais. Trouverait-il la foi sur la terre? Au lieu de se concentrer sur ce qui fait la force, nous on est dans les futilités. Hein? Au lieu de bien faire les choses pour qu'on parte, fête des mères, fête des pères, fêtez seulement. Fêtez. Dimanche là, on va fêter. Voilà, même si vous ne me donnez pas un cadeau là, ça ne me dit rien. Voilà, ça je vous dis ça. Voilà, bien. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a trop de fêtes qui n'ont même pas d'impact dans la vie chrétienne. Regardez, vous pensez que, père là, ton papa là, tu vas le respecter seulement, c'est les vins là, tu vas le respecter seulement. Tu vas l'honorer seulement les vins. C'est ça, non? Après les jours qui restent, si on te dit, il faut aller faire telle chose, tu regardes même ton papa, il y a quoi? Hein? Y a, pourquoi tu me regardes comme ça? Et puis c'est les vins, je suis venu, papa. Et on suit les choses du monde, on fait entrer ça à l'église. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est tous les jours. Dites amen avec moi. Honore ton père et ta mère, c'est comme ça que tu vivras longtemps sur la terre. Ou bien, il n'y a pas ça dans la Bible. On a dit qu'il faut l'honorer seulement un seul jour. Hein? Il faut l'honorer seulement un jour. Même les enfants à la maison. C'est seulement un jour où vous allez. Papa, ce qu'il fait pour vous, tout ça là, il paye manger, il paye vos habits, il paye votre école, il paye le transport, tout ça là, là. Vos portables, c'est papa qui charge. Savon, papa qui charge, qui met. Et puis, brosse pour se brosser, c'est papa. Père, pas dentifrice, c'est papa. Savon pour te laver, c'est papa. Hein? Et puis, c'est un jour seulement, c'est les 20. Tu vas venir à papa, alléluia. Je suis venu t'honorer ce jour-là. Ce jour-là, tu fais quoi?
Foutaise.
Hein? Pardon? Ne faites pas, il y a quoi? Ça ne change rien. Si vous voulez pas nous honorer, même laissez. On a fini de manger tout ça là. On mange tous les jours, non? Alors, c'est votre quoi là, vous allez préparer, que c'est qui va changer quoi? Faut nous honorer tous les jours. Nous aussi, on va vous honorer tous les jours. Voilà ce qu'on veut. Voilà. C'est tous les jours. Ce n'est pas un jour seulement. On est d'accord, non? On est d'accord? Voilà. Bon, je ne suis pas là pour gâter votre fête de samedi, dimanche, hein, mais je dis quand même que je suis en train de parler. Écoutez, mon objectif, c'est quoi? C'est de vous montrer qu'il y a des choses secondaires qui commencent à devenir des choses priorisées. C'est-à-dire, des choses ça commence à prendre l'importance. Trop d'importance même. Quelles choses spirituelles? Ouais. Et on doit faire attention pour ça. On doit faire attention. C'est la distraction de l'ennemi. On envoie des choses du monde. Saint-Valentin, c'est venu à l'église. Hey, ce jour-là, c'est Saint-Valentin. Les amoureux vont vraiment aller à Bassam. On est où là? C'est venu à l'église. Si vous ne faites pas attention même, faites des générations. Ça vient encore à l'église. Oui, il y en a. Il y a les églises qui font faites des générations. Chez mes parents là, c'est là, ébriés. C'est venu dans l'église. Fête des générations. C'est venu dans l'église. Et les chrétiens sont là. Hein? Ils se voient. Ils savent même. Ils sont distraits. Mais prends chrétien pour dire allons évangéliser. Il ne va pas partir. Mais pour fête, il est pressé. Il porte habit. Il porte uniforme. Portez le tricot ici, là. On va partir. Mais c'est pas. Il faut nous faire un tricot, hein, d'évangélisation. On va porter ça jour de fête de père. On vient ici. Porte, allez. Tricot évangélisation. Allez. Nous tous. On sort. Hein? On va l'évangéliser, papa. Hein? Vous venez là. Oh, regardez. Permettez-moi. Je suis en train de parler. Vous. Ce n'est pas pour vous faire rire. Mais c'est pour attirer votre attention. Hein, qu'il y a des choses subtiles qui entrent dans l'église pour endormir l'église. C'est comme si le diable faisait. Ce qui fait la force, vous oubliez. Et vous êtes chaud dans ce qui n'a pas d'impact dans le royaume de Dieu. Et on est chaud pour ça. Ce qui fait la force, c'est que Jésus attend là. On ne le fait pas. Mais ce qui n'est pas important là, nous, on est chaud dans ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les religieux, les vrais, vrais chrétiens. Vous savez, les religieux? Les religieux, eux là, sont forts. Dans des dans des choses futiles, banales, et sont forts dans ça. Ouais. Ils sont forts dans ça. Mais ce qui fait la force, là, ils ne sont pas zélés pour ça. Mais si on dit les choses, écoutez, hein, ce que vous entendez là, c'est match de France. Non, je vous informe déjà. C'est match de France. Mais écoutez, hein, ça là, si tu visites, tu vas aller voir les chrétiens sont assis. Les chrétiens sont assis. Vous savez, j'étais choqué de voir, vous savez, les gens là, quand ils font des choses, hein, ils calculent l'heure. Il y a des moments où vous partez à l'église là, et ils savent ça. Vous savez, quand le film Marimar est sorti là, hein? En fait, donc, ce n'est pas on. Moi, j'ai vu une soeur avec cuvette à Cocody sur la tête et court. Sur fenêtre de quelqu'un. Fenêtre de quelqu'un avec son assiette de quitter au marché. Et puis il est arrêté là. Parce que Marimar commence à 19h00. Elle assis avec son assiette sur la tête. Hein. Il doit attendre les 15. Combien de minutes que ça faisait? 15h30. Hein. Marimar là. 15h30. Il doit attendre ce que ça finisse. Et puis il va partir. Il va partir. Mais il faut lui dire de courir comme ça à l'affermissement. Il faut lui dire. Il faut courir. Il y a l'heure de l'affermissement. Il ne va pas courir. Hein. Il est fatigué aujourd'hui, là, vraiment. En tout cas, on a comme excusé. Vraiment. On a comme excusé.
Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ.
Je suis en train de parler des choses subtiles qui entrent dans l'église. Et on veut donner une valeur à ça. Et pourtant, ça n'a même pas de valeur spirituelle. Ça n'a même pas de valeur spirituelle.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ.
Ce sera la proclamation officielle et glorieuse de l'union de Jésus-Christ avec son épouse qui est l'église. Voilà. Ça, c'est l'union. C'est le mariage de Jésus-Christ avec son église qui est son épouse. Ça sera l'union de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus va récupérer son église. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église. » Vous voyez, « Je bâtirai mon église. » Et ici, dans les noces, Jésus récupère son église. Bien aimé, même si c'est toi qui as créé ça, mais vous devrez savoir que l'église a son propriétaire. Et son propriétaire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà. Même si c'est toi qui as fondé ça, c'est toi qui as créé, mais il faut savoir que l'église, là, c'est pour Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix, qui a versé son sang à cause de racheter, et non à cause de toi.
Alléluia.
Aujourd'hui, dans les églises, non, c'est nous, les membres fondateurs. Les membres fondateurs. Et les gens se battent à l'église à cause des membres fondateurs. L'église, là, c'est pour toi. C'est toi qui es mort à la croix. C'est toi qui es mort. Tout ça à cause de quoi? À cause d'argent. Hein? À cause d'argent. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Voilà maintenant le problème. Ça, on a fini au ciel. Hein? On a fait, on a bien mangé là-bas. On est avec Jésus-Christ. Et on va rester là-bas pendant 7 ans. Dans les terres là-bas. On est là-bas avec Jésus-Christ. Ok? Sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est le règne de l'Antichrist. Antichrist. Quand déjà vous entendez son nom, ça montre déjà, quand on dit anti, ça signifie quoi? C'est contre. Ouais. Mais il y a aussi antéchrist. Il faut faire la différence entre antéchrist et antichrist. C'est différent. Quand on dit antéchrist, ça dit qu'il vient avant Jésus. Anté. C'est avant Jésus. C'est-à-dire le précurseur. Hein? Les précurseurs de l'antichrist. Il va envoyer ses éléments d'abord pour venir préparer le terrain. On est d'accord, non? C'est ce que nous allons voir ça. Qu'il va envoyer ses précurseurs pour venir préparer le terrain. Mais quand on dit antichrist, c'est contre le Christ lui-même. Contre le Christ. Alors qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement, le cours de la vie restera normal. Ça, vous devrez retenir. C'est-à-dire que quoi? On est parti et sur la terre, les choses continuent. C'est-à-dire que les gens vont venir au culte dimanche pour célébrer la fête des pères. Dites Amen avec moi. Dites Amen. Papa, mais comment dit quoi? On est déjà parti. Ah, merci beaucoup, papa. On ne peut pas dire Amen. Vous voyez, les gens, la cour des choses va continuer normalement. Ça dit quoi? Il y aura le culte dimanche. Il y aura affermissement mardi. Mais vous allez venir ici que Pasteur Ngoma n'est pas là. Vas-y. Moi, je suis premier. Et le Pasteur Ngoma n'est pas là. On cherche Papa Don. Papa Don n'est pas là. On cherche Papa Olier. Papa Olier n'est pas là. On cherche Papa Don. Et Papa Pécom n'est pas là. Maintenant, vous restez entre vous seulement. Hein? Et puis, vous regardez. Bon. Qui va diriger? Ah, vous allez partir. Ah, voilà. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Vous ne voulez pas rester, hein? Vous ne voulez pas rester. Merci que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Ça doit être notre objectif. Ah, amen. Voilà. Si ça sera vide, on doit se préparer. N'est-ce pas? On est d'accord pour que le temple soit vide. Mais partout dans le monde entier, retenez que la vie va continuer normalement. Les gens vont aller au marché, les choses ne vont même pas changer. Seulement, ils auront un constat. Quand ils vont venir là, dimanche, si on est parti mercredi, ils vont venir ici dimanche, on attend. 8h n'est pas encore arrivé. Non, non. Et maintenant, il y a 8h30, 9h. Et puis le culte ne commence pas. Oh, c'est comment? C'est là maintenant les gens vont commencer à se poser la question. Hein? Papa donc, papa donc, il n'est pas venu. Prenez le portable, ça sonne seul là-bas, ça sonne seul. Il n'y a personne pour décrocher. Et donc c'est sérieux. Et c'est comme ça les gens, vous restez comme ça. Dans leur famille, merci beaucoup Mamadou. Il y aura des gens qui seront. Parce que la Bible dit, on va voir ça dans Matthieu, que l'un qui sera au lit, un sera pris et l'autre est laissé. Même celui qui sera sur le toit, un sera pris et l'autre est laissé. Les deux femmes qui moudront sont en train de piler. À tour de rôle. Quand tu vas faire comme ça, tu n'entends pas le deuxième coup. C'est que l'autre est parti. Donc toi, tu restes toi seul pour piler. Ça démotive. Ça coupe l'appétit en même temps. Tu vas faire quoi? Ouais. La vie va continuer. Les gens vont aller à l'église. Mais là, c'est arrivé à l'église, là, les gens vont se rendre compte que. Ah! Donc, ils sont partis. Et nous, on est restés. Bon, c'est pas grave. On va choisir notre pasteur. Qui sera notre pasteur parmi nous ici? Ils vont choisir PECOM. Qui sera notre PECOM ici? Et qui sera notre conducteur à la place de Papa Oli? Qui sera. Ils vont se choisir les gens. Et bon, malgré ça, ils vont connaître le culte. Ils vont connaître le culte. Le culte va continuer. Ils vont venir dimanche. Ils vont venir mardi pour affermissement. Mais, hein? Non, ils vont se choisir quelqu'un qui va continuer. Celui qui va rester va dire que, bon, mon ami, on ne va pas rester quand même comme ça. Hein? Le peu qu'on a pris là. Bon, donc, nous-mêmes là, on va s'affermir ici. Donc, c'est là maintenant qu'ils vont continuer le travail. Hein? Mais ce qu'il faut retenir, Saint-Esprit n'est plus là. Vous devrez savoir ça dès. Saint-Esprit n'est plus là pour convaincre quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit tout péché contre le Saint-Esprit, hein? Tout péché contre le Fils de Dieu ou quoi, c'est pardonnable. Mais contre le Saint-Esprit, hein? Parce que c'est le dernier recours de Dieu sur la terre. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à te convaincre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir te convaincre de ce qui concerne le péché. Le jugement. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour convaincre du péché et du jugement. Vous voyez, si le Saint-Esprit ne peut te convaincre, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est toi-même, personnellement, qui. Donc, ceux qui vont rester là, ils vont se dire, rendre compte que, ah, donc on est resté, on n'a qu'à se chercher maintenant, par nos propres moyens, par nos propres forces. Il y aura des gens quand même qui seront sauvés après la tribulation. Mais ils seront sauvés au prix de leur sang. Ce n'est plus sur les sacrifices de Jésus. Parce qu'en ce temps-là, le sacrifice de Jésus n'a plus d'importance. Même la foi n'aura pas de place. Pour dire que crois au Seigneur Jésus, tu seras, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, il y a le Saint-Esprit n'est plus là. La grâce n'est plus là. La miséricorde n'est plus là. Maintenant, tu fais quoi? Voilà, c'est qu'ils vont rester. Et maintenant, comme ils seront conscients qu'on est resté, bon, en tout cas, on doit faire l'effort. Malgré tout ce qui va se passer, mais par notre propre effort, en tout cas, on ne va pas renier Jésus-Christ. On va tout faire pour ne pas renier Jésus-Christ. On sait qu'on est resté, mais on peut être rattrapé. On peut faire rattrapage. Est-ce qu'on se comprend? Mais cette fois-ci, rattrapage là, il faut bosser d'être. Voilà. C'est difficile. Parce que nous allons voir ça dans les films, pendant cette période-là. On vient comme ça, on ne va pas te tuer directement. Parce que si on te tue directement, comme ça, c'est une perte. Mais on va venir là, on vient ton œil. Sortir ça, ça sort là-bas, ton œil tombe. Mais toi, tu vis toujours, tu ne vas pas mourir, tu es là. Tu es là. Hein. Tu restes là jusqu'à ce que ça va guérir, ça y est là. Il n'y a pas de médicament aussi pour mettre dans ton œil là, pour que ça guérisse. Tout sera comme avant l'enlèvement. Seulement, le monde sera dirigé par l'antichrist, appelé la bête. Allons-y, on va terminer. Apocalypse. Le verset 7, rapidement. C'est un enseignement qui fait peur, mais c'est un enseignement qui nous encourage à la vie de sanctification, à la vie de consécration et à la vie du service. Voilà le rôle de cet enseignement. Ça fait peur, c'est vrai, mais ça nous encourage à la vie de sanctification, de consécration et à la vie de service. Ouais. Apocalypse 11, 7, Roxane. Oui. Vous voyez, il y aura la bête. Voilà, qui dirigera le monde sous l'autorité, sous son autorité. Ce n'est pas en vain que
Je vous informe déjà que la voiture que Donald Trump conduisait, ça s'appelle la BECT. Qui le conduisait là, la voiture des présidents américains. Blindé. Le nom de la voiture là, c'est la BECT. Yeah. C'est un nom seulement, et je ne dis pas que c'est Donald Trump qui est la bête, hein? Mais c'est un nom seulement qu'on a donné pour dire que les gens de l'autre côté là, ils se préparent, hein? Et ils savent qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qui va s'appeler la bête. Voilà. Et ils mettent ça comme ça, comme nom, marque de la voiture. Voilà. Blindé là. On dit c'est la bête. Alors, ils sont en train de préparer ça. Voilà. 1 Jean 2, le verset 18, qui lit ça rapidement, on va finir. Faites vite, on va terminer. Maman. Élisée, tu partages les fiches. On a fini. 1 Jean 2, 18. Oui. C'est la dernière heure. Viens. Vous voyez, ils sont déjà plusieurs. Ces enfants, ces éléments sont déjà dans le monde. Ils sont en train de travailler. Pour amener le monde dans la dépravation. Drogue. Tout ça là. C'est amener les gens dans la dépravation pour qu'ils perdent une notion de morale. Allons-y. Oui. Oui. C'est la dernière heure. Oui. 2 Jean 7. Rapidement. 2 Jean 7. Ok? Oui. Vous voyez, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde pour séduire les gens. Ils n'acceptent pas d'abord même l'humanité de Jésus. Oui? Oui? C'est le séducteur et l'antéchrist. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est 100% homme. Ouais. Ça, on entre dans les doctrines. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ceux qui ne croient pas que le Jésus est venu en chair et en os pour sauver l'humanité, comme la Bible dit dans Jean 1, 14, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et verset 18 dit, nous avons vu sa gloire comme le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu venant de Dieu le Père lui-même. Ouais. L'histoire nous révèle des précurseurs. C'est-à-dire qu'il y aura des éléments, des agents de l'antichrist qui vont venir avant pour venir préparer la venue de leur maître. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tout se prépare là, sur les sectes là. Vous voyez, avant, quand on parle des sectes pernicieuses, c'était quelque chose qui se faisait en secret. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert. Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps, il faut recruter beaucoup de personnes. Et pendant ce temps qu'ils sont en train de recruter beaucoup de personnes, les chrétiens sont là, faites des mères, des pères. Vous voyez, ils sont en train de recruter. Regardez, quand on parle de franc-maçonnerie, tout ça, là, avant là, c'était secret. Mais aujourd'hui là, c'est public, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, nous devrons nous préparer. 1 Jean 2, 18, on a déjà lu. Oui, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de choses qui se mettent en place pour préparer la venue de l'Antéchrist. Les unions que vous entendez là, union temps, je ne vais pas citer le nom. Union temps, union temps, union temps. Quand ça se mettra ensemble comme ça, hein? Je vous laisse réfléchir. Pourquoi il y a Brexit? Ça, c'est une raison que les gens ne vous diront pas. Demandez la cause réelle de Brexit. Je vous laisse là. Allez-y réfléchir. Le Brexit, là, quelle est sa raison? Pourquoi l'Angleterre dit donc, lui, on ne va pas participer là-bas, on sort? Ce n'est pas un problème économique. C'est un problème lié à l'eschatologie. Mais ils ne vont pas vous dire haut et fort que personne n'échappera.
Oui. Personne n'échappera. Et tous les mouvements qu'ils mettent en place, c'est pour créer la peur pour que les gens adhèrent à leur nouvelle ordre mondial. Ouais. Mais malheureusement, l'Église cautionne le plan et le programme des activités de l'Antichrist pour envoyer ça encore à l'Église, pour soutenir. À cause de quoi? À cause de l'argent qu'on vous donne. Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. On s'en va prendre l'argent pour venir faire la propagande et la promotion du programme de l'Antichrist à l'Église. Que Dieu nous garde. On s'arrête là pour ce soir. Merci pour votre patience. Merci aussi pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.